Cette campagne, bonjour. Aujourd'hui, nous marquons une pause dans notre feuille de route nivernaise pour nous intéresser à la situation et à l'utilité des think tanks en France. Les think tanks ou laboratoires d'idées qui apparaissent dans notre pays dans les années 90-2000 ont une bien plus ancienne histoire puisque le premier recensé daterait de 1884 et répondait à sa naissance à Londres au nom de Fabian Society destinée à promouvoir les réformes sociales de l'époque. Plus tard, ces réservoirs d'idées se sont développés aux États-Unis à partir des années 60. Certains think tanks conservateurs, proches entre autres de la politique de Ronald Reagan, ont participé dans les années 80 à la promotion de politiques néolibérales. Ça s'annonce mal si nous en restions à cette genèse. Mais des groupes de réflexion en France, comme celui du Labo de l'ESS, ont pris une toute autre orientation, plus alternative. C'est pourquoi notre interlocuteur est aujourd'hui Hugues Sibyl, président de ce Labo de l'ESS, qui nous fournit régulièrement des analyses sur l'évolution d'une économie sociale et solidaire.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Hugues Sibyl, bonjour.
Bonjour.
Hugues, président du think tank du Labo de l'ESS, j'insiste sur think tank, puisque avec vous aujourd'hui, on va parler justement de l'utilité, de la finalité des think tanks. Combien y en a-t-il en France? Une centaine?
Oh, 100, c'est beaucoup, hein. Il y en a sans doute moins que ça. La définition est d'ailleurs variable parce qu'il y a des think tanks de sortes très différentes. Il y a d'ailleurs aussi des do tanks, donc il y a aussi des gens qui veulent agir et pas seulement penser. Centaines, c'est vraiment le maximum avec une très grande diversité.
Les définitions, alors, il y en a beaucoup. Les think tanks produisent régulièrement des études ou des rapports et formulent des propositions. Certains sont ouverts vers la société civile, organisent des réunions publiques, des séminaires ou des colloques. Ils sont parfois considérés comme un lien entre le monde du savoir ou de la recherche et celui de la politique ou du pouvoir.
Alors, aïe. Oui, mais alors nous, ça commence très bien parce que nous sommes un think tank un peu particulier. L'approche du Labo de l'ESS, c'est pas de réunir des crânes d'œufs dans une salle pour réinventer le monde en chambre, c'est de partir d'abord des expériences de terrain et de ces expériences de tirer un certain nombre d'enseignements. En fait, la conviction que je viens partager avec vos auditeurs ce matin, c'est d'abord qu'une autre économie est possible. On existe le Labo de l'ESS parce qu'on pense qu'une autre économie est possible, une économie qui repose sur la solidarité, la démocratie et l'écologie, et que cette autre économie, elle existe déjà sur le terrain. C'est-à-dire, on est en train de dire sur le terrain, un nouveau monde s'invente, il est formidable, mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'est pas encore assez entendu par les gens qui nous dirigent. Et donc, un think tank, ça sert à porter ces expériences.
Le vôtre.
Le nôtre. Je ne parlerai pas pour tous les think tanks, je parlerai non, du
parce
mien.
Parce que je vous fais toute la liste des think tanks.
Cher Philippe, je vais vous dire quelque chose, c'est que des think tanks qui approchent l'économie autrement que une certaine forme de pensée unique de l'économie, il n'y en a pas beaucoup.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Et donc, le Labo de l'ESS, c'est un think tank différent qui pense qu'il y a d'autres façons de faire et qui voudrait, au fond, par une bataille des idées, provoquer un espèce de Big Bang, que toutes ces expériences qui sont un peu aujourd'hui dispersées et marginales fassent un système et contribuent à modifier l'économie dans laquelle nous vivons. Parce que aujourd'hui, ce que disent finalement les gilets jaunes, c'est que ça va pas, ils sont pas contents, mais on tourne ça uniquement vers le politique et nous disons attention, ce qu'il faut c'est changer l'économie, c'est ça qui fera que ça ira mieux.
Mais alors là on est plus dans le débat directement de think tank, on est dans le débat de fond de la société. Changer l'économie, c'est le pouvoir politique qui peut décider de ce changement.
Non, justement, c'est là où nous abordons en tant que think tank une approche différente, c'est que nous pensons que c'est d'abord les citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire les salariés, les épargnants, les consommateurs, les habitants qui peuvent changer l'économie par une forme qui s'appelle l'économie sociale et solidaire, dans laquelle ils prennent le pouvoir. Parce que dans cette économie-là, ce sont les consommateurs qui ont le pouvoir dans des coopératives de consommation. Vous avez parlé de l'expérience de la Louve, il y a aujourd'hui beaucoup de coopératives de consommation qui s'inventent, il y a des circuits courts. Donc on peut prendre du pouvoir sur l'économie et pas simplement se dire je délègue mon mandat à un représentant politique à qui je vais demander de changer l'économie. Non, moi, en tant que salarié, consommateur, épargnant, je peux changer l'économie par ma façon de faire au quotidien. C'est ça, cette économie sociale et solidaire. Et c'est là où elle apporte aujourd'hui des solutions qui sont cruellement défaillantes dans le monde dans lequel nous vivons.
précisément pour en revenir au think tank, puisque c'est l'objet de ce rendez-vous avec le labo de l'ESS, Uxibil, j'ai lu le rapport annuel de l'Observatoire européen des think tanks. 53 think tanks en France sont reconnus comme bien gérés, mais alors c'est là où ça commence à déraper, c'est que la plupart ont des modes de financement absolument flous. Et c'est très préoccupant. Alors, le rapport propose trois expertises. Un, le mode de fonctionnement du think tank. Deux, son type de production. Normalement, il y a des experts, des chercheurs qui doivent produire du texte, produire de la matière suite à son travail de réflexion. Puis le troisième, c'est le financement. Et là, on a même un financement qui vient de Matignon et qui passe par Matignon. Et on ne sait pas vraiment à quel niveau il est redistribué, à qui, pourquoi. Enfin, il y a une sorte de grand flou qui est effrayant.
Oui, alors je pense qu'il y a une grande diversité de situations. Hein. Il y a des think tanks qui bénéficient d'argent public, il y a des think tanks qui reposent que sur des financements d'entreprises privées, ce qui les rend indépendants du pouvoir politique, mais qui par contre les rend dépendants d'une pression, disons, des grandes entreprises qui les financent. Mmh. Ce qu'il faut demander, c'est d'avoir une transparence sur l'origine des fonds de ces think tanks, sur leur gouvernance. Pour ce qui concerne le labo de l'ESS, nous sommes une association 1901 avec un conseil d'orientation, avec une transparence de nos comptes qui viennent pour partie des adhérents du think tank, pour partie de missions que nous remplissons et pour lesquelles nous sommes financés, et pour quelques parties de subventions.
Uxibil, le président du labo de l'ESS, invité des carnets de campagne pour cette première de l'année avec le labo autour des think tanks. Je le rappelle, donc, il y a eu un rapport annuel publié de l'Observatoire européen. On vous mettra en lien, d'ailleurs, avec celui-ci pour lire ce rapport qui fait une cinquantaine de pages. Donc, l'Observatoire européen des think tanks comptabilise 53 organisations en France contre 46 en 2016, donc il y en a un tout petit peu plus. Revient sur des organismes bien structurés, mais assez peu transparents. Le labo de l'ESS est né il y a combien d'années, Uxibil ?
Le labo de l'ESS est né il y a 8 ans. Il a été initié par un personnage formidable qui s'appelle Claude Alfandéry en créant des états généraux de l'économie sociale et solidaire. Et c'est assez intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il avait, à l'époque, monté des cahiers d'espérance qui ont été fabriqués sur le terrain dans la société. Aujourd'hui, on voit qu'il y a toute une attente à travers le débat national. Donc, dès cette époque, nous avions fait ça. Nous avions fait, avec un symbole à la Bourse de Paris, au palais Brongniart, les états généraux de l'ESS, qui avait été un moment absolument formidable et un moment de lancement de ce think tank de l'économie sociale, le labo de l'ESS. Et puis depuis, nous avons beaucoup travaillé pour produire un certain nombre de propositions et d'idées sur beaucoup de sujets, sur la transition énergétique citoyenne, sur les nouvelles formes d'emploi, sur l'alimentation durable, sur les pôles territoriaux de coopération économique, chaque fois en partant de ce que font les gens sur le terrain. C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'encore une fois, il y a un monde nouveau qui s'invente et qui il faudrait bien que nos élites, qui sont fort critiquées aujourd'hui, se décident enfin à regarder d'un peu plus près.
Alors, vous parliez du statut associatif du labo de l'ESS. Je faisais référence aux subventions, aux modes de financement. Quels sont les financements de fonctionnement du think tank du labo de l'ESS?
Le labo de l'ESS a un financement annuel qui est de l'ordre de 500 000 euros, avec une équipe extrêmement restreinte de 4 personnes. Et ces financements donc sont pour partie des financements de cotisation, de gens qui nous soutiennent parce qu'ils pensent que nous faisons est intéressant. Et puis nous avons des études ou des travaux que nous faisons financer par un certain nombre de partenaires. Actuellement, par exemple, nous avons un travail tout à fait passionnant qui démarre sur les territoires pionniers, dans lequel nous avons des gens qui nous financent pour réaliser ce travail, mais uniquement ce travail-là. Donc c'est un mélange de financement. Le modèle économique, comme on dit, reste quand même difficile. C'est-à-dire que c'est une bataille de tous les jours pour trouver les financements pour être présent dans cette bataille des idées. Surtout quand on veut représenter une économie différente et où donc les grands sponsors se précipitent pas forcément pour nous financer.
C'est clair. Et comment on élargit son cercle ?
On élargit son cercle d'abord, à mon avis, par la qualité des travaux qu'on fait. On élargit son cercle ensuite en essayant d'avoir une communication intéressante, c'est-à-dire qu'il soit une communication de contenu. Nous menons une bataille des idées. Donc, en fait, il faut que nous communiquions sur nos idées. Donc, c'est bien sûr occuper les réseaux sociaux, c'est s'assurer que nos débats soient diffusés. Et puis, c'est toute une activité de rencontre et d'échange, donc de monter des séminaires. Donc, nous avons par exemple des séminaires prospectifs dans lesquels nous réunissons pas forcément des très grands nombres, 50, 80 personnes, pour travailler sur un sujet. Et ces personnes deviennent ensuite des personnes qui peuvent diffuser autour d'elles ce que nous faisons, et avec quand même le souci que tout ça influence, parce que produire des idées, c'est bien, mais enfin, moi, produire des idées pour produire des idées, ça m'intéresse moyennement. Ce qui continue à nous intéresser dans notre labo, c'est de changer le monde. Et parce qu'on est convaincu qu'il faut absolument le faire quand on voit le nombre de menaces qui pèsent aujourd'hui sur le monde dans lequel nous vivons. Donc, nos idées, nous voulons qu'elles aboutissent à des choses concrètes, à des décisions, à des réalisations. On pourrait prendre des exemples si vous voulez.
Alors, en fait, donc, vous collectez des informations, vous en faites une synthèse ou un objet d'analyse, vous allez en faire un compte-rendu, ce compte-rendu revient sur le terrain.
Voilà, ce compte-rendu revient sur le terrain pour que les gens qui agissent puissent s'en saisir.
Alors, c'est qui, par exemple,
on a travaillé sur les pôles territoriaux de coopération économique, on a fait un gros travail d'enquête sur ces pôles, savoir comment ils sont financés, comment ils fonctionnent, etc. Donc, ça revient sur le terrain pour que les gens disent, tiens, je peux apprendre de ce que font les uns et les autres, mais c'est aussi diffuser ça auprès des pouvoirs publics, auprès des organisations syndicales, patronales, etc., pour que ça diffuse et que les gens puissent s'en servir dans leur action quotidienne. Donc, il y a un souci permanent que ce que nous produisons ait un débouché le plus opérationnel possible.
Merci, Hugues Sibylle. Le labo de l'ESS, le lien à nos pages d'émission, et puis vous aurez aussi le lien, comme je vous l'ai dit, avec cette étude de l'Observatoire européen des think tanks. À bientôt.
Merci Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Afin de mieux partager ses recherches et surtout ses publications, le labo de l'ESS inaugure un nouveau service baptisé Plateia, en référence au mot grec qui signifie place publique. Donc à partir d'aujourd'hui, le labo de l'ESS vous propose de donner votre avis, de commenter les articles de fond qui sont publiés par le programme du labo et de proposer les solutions que vous souhaitez voir se développer et voir développer par l'économie sociale et solidaire. Comme Hugues Sibylle le soulignait, les alternatives économiques recensées par le labo, à l'image de celles que nous vous faisons partager depuis tant d'années, sont propices à répondre à une majorité de questions et d'inquiétudes qui traversent les esprits depuis le début des grandes crises économiques et sociales de 2008. À partir de ce jeudi et tous les 15 jours, le labo fera appel à votre réactivité pour commenter et débattre autour d'une question d'actualité. Et comme certains ou certaines parlent aussi de réveil de la démocratie, un article récent sur le site du labo fait état de la création d'une association par de jeunes soucieux de rendre plus lisible le débat public. L'association s'appelle Vox, V-O-X-E, et elle a pris une belle envergure depuis que des collectivités font appel à ses services pour inciter les jeunes à se mobiliser autour des débats publics et depuis que son dispositif est décliné à l'étranger. En effet, en 2012, l'association avait conçu un comparateur de programmes pour les élections présidentielles en France. Et depuis cette date, des groupes nationaux se partagent ce comparateur de programmes et entretiennent des échanges d'informations via les réseaux sociaux. À sa page d'accueil, l'association a un nom sur son site, Vox, l'ami qui vous permet de mieux comprendre le monde. Rien que ça. Le site, c'est vox.org.